Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après les États-Unis, Israël quitte à son tour l'UNESCO. Les deux pays n'apprécient pas les anciennes décisions prises en faveur de la Palestine. Étrange calendrier alors que l'organisation onusienne se cherche un directeur. Analyse de Nadine Epstein dès le début de ce journal.
Dans un instant également, parole de Congolais, opposants et partisans du président Joseph Kabila. Une guerre des mots a commencé dans le pays depuis le report des élections à 2019.
C'est le versant protection de la flexi-sécurité annoncée par Emmanuel Macron. L'assurance chômage pour tous, démissionnaires et indépendants. Compris. Les indépendants sont toutefois sceptiques. Le dispositif devrait coûter très cher, nous dira Anne Lorchouin.
Et puis, l'urgence des déserts médicaux en France. Le gouvernement présente son plan de lutte ce matin. La solution n'est pas quantitative, elle est qualitative pour l'Ordre national des médecins.
Dans un quart d'heure, un billet politique aux 12 étoiles sur fond bleu. Frédéric Seitz reviendra sur la chasse au drapeau européen par Jean-Luc Mélenchon. L'administration américaine a mûrement réfléchi son choix. Les États-Unis se retirent donc de l'UNESCO, l'agence de l'ONU pour l'éducation et la culture. Son allié et ami Israël lui a emboîté le pas dans la foulée hier, critiquant une organisation devenue un théâtre de l'absurde. Les États-Unis et Israël dénoncent en fait les décisions anti-israéliennes, selon eux, reprochant à l'UNESCO d'avoir pris plusieurs résolutions en faveur de la Palestine, qui est devenue un membre à part entière il y a 6 ans. Dans le studio ce matin, de France Culture, Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Voilà qui amène de l'eau au moulin de ceux qui estiment que les conflits du Moyen-Orient sont entrés à l'UNESCO.
Et ce qui paraît troublant, ce n'est pas tant le retrait américain et israélien de l'UNESCO, puisque cela faisait déjà 6 ans qu'ils avaient suspendu leur contribution financière, mais c'est plutôt le moment choisi pour l'annoncer. En effet, depuis lundi, se déroule place de Fontenoy à Paris, siège de l'UNESCO, les votes pour choisir le nouveau directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour la Culture et l'Éducation. À l'issue du 4e tour, hier soir, le Qatar est arrivé en tête avec 20 voix, suivi ex aequo par la France et l'Égypte qui ont obtenu chacune 18 voix. Et un vote des 58 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO se déroulera à 14h pour les départager. Et en fin de journée, ultime vote pour choisir celle ou celui qui remplacera la Bulgare Irina Bokova. Au départ de ce processus, il y avait 4 candidatures de pays arabes, mais l'Irak s'est désisté au profit de l'Égypte. Il restait donc Qatar, Égypte, Liban. 3 candidatures qui souvent ont été interprétées comme une preuve de dissension des pays arabes, qui ne présentaient pas une candidature unique. Et surtout, pour la première fois, l'enjeu dépassait le seul cadre de l'UNESCO, puisque Qatar et Égypte sont 2 poids lourds du Moyen-Orient impliqués dans les conflits et guerres actuelles. Et pour corser encore un peu plus la situation, dans ce contexte, la France, soutenue par le Maroc, a présenté la candidature d'Audrey Azoulay, candidature souvent mal perçue, notamment par certains pays arabes qui estiment que le siège étant déjà à Paris, la direction de l'organisation doit revenir à quelqu'un d'autre, sans oublier la dimension représentation et place de la culture de pays autre qu'occidental. Résultat des courses ce soir.
Le retrait des États-Unis et d'Israël n'est donc peut-être pas un hasard. Merci beaucoup Nadine Epstein. En direct ce matin, les États-Unis en croisade contre les accords internationaux sur le nucléaire iranien également. La décision de Donald Trump est très attendue aujourd'hui. Le président des États-Unis doit se prononcer sur le texte signé en 2015 avec Téhéran pour encadrer le programme nucléaire civil de la République islamique. Il pourrait décider donc ce soir de ne pas certifier ce texte. Donald Trump qui n'a jamais cessé de critiquer l'accord. Quelques mots des incendies qui ravagent toujours la Californie et notamment son cœur viticole à cause du vent et de la sécheresse. Le bilan est désormais de 31 morts en 5 jours, près de 500 disparus. Ce sont les incendies les plus meurtriers dans l'état de l'Ouest américain depuis le début des années 30. L'opposition ne compte pas en rester là, en République démocratique du Congo. L'élection présidentielle n'aura pas lieu dans le pays avant avril 2019 au minimum. Annonce hier de la commission électorale. Elle dit avoir besoin de temps pour le recensement de la population. Mais le président en place, Joseph Kabila, a fini son mandat depuis 1 an maintenant. C'est déclaré la guerre au peuple congolais, dénonce le leader de l'opposition. Christophe Lutundula est lui porte-parole de la coalition d'opposition G7 dans le pays. Abasourdi.
C'est inacceptable parce que d'abord, depuis que ce pays existe, c'est la première fois qu'un cycle électoral va durer 4 ans, tout un mandat politique. Ça signifie tout simplement qu'il gagne du temps pour tout verrouiller et à un moment donné improviser les élections pour les gagner. ce qui est tout à fait contraire à la Constitution et ce qui serait en tout cas un fâcheux précédent et porteur de la déstabilisation de notre pays en permanence. Il y a un peuple qui est sous tension, qui ne sait pas à quel saint se vouer, à qui donner la tête pour sa survie. Il faut éviter de pousser les Congolais qui ne parlent peut-être pas aux extrêmes et de nous surprendre un beau matin pour créer une situation ingérable et aux conséquences difficilement maîtrisables.
Hein. Le porte-parole de la coalition d'opposition G7 en RDC au micro RFI de Léa Lisa Westerhoff. Elle a également joint hier soir la voix de la majorité présidentielle, Alain Atundu. Lui a des arguments préparés et assumés quant à ce possible report annoncé par la commission électorale.
Cette communication de la CENI est un appel à la raison, à la classe politique, particulièrement à nos partenaires de l'opposition qui pensaient imposer leur volonté sur les contraintes techniques. Il est raisonnable de se plier aux exigences techniques qui sont différentes des aspirations politiques.
C'est-à-dire ?
Mais le plus important, c'est d'avoir des élections crédibles, non productrices de chaos post-électoral. C'est ça l'essentiel.
Mais 2019, est-ce que ce n'est pas trop loin justement pour être encore crédible ?
Mais par rapport à quoi ? La crédibilité, c'est les données fiables, c'est les processus transparents et le consensus de tout le monde. La date, ce n'est pas un élément de crédibilité.
Et tout de même, la communauté internationale demande un calendrier électoral. L'an dernier, le refus de Kabila de quitter le pouvoir avait provoqué des violences dans le pays, faisant des dizaines de morts. L'autorité palestinienne devrait prendre en main l'administration à Gaza assez rapidement, conséquence du premier accord de réconciliation signé hier entre le Fatah et le Hamas. De nouvelles discussions s'engageront ensuite fin novembre sur le calendrier politique, avec un enjeu important, comment former un gouvernement avec le Hamas, qui souhaite toujours conserver sa branche armée, tout en gardant le financement des États-Unis et de l'Europe. Certains le surnomment le Macron autrichien. Sébastien Kurz, 31 ans, fait la course en tête dans les sondages autrichiens. Il pourrait devenir ce dimanche le premier chancelier d'Autriche. D'orientation démocrate chrétienne conservateur, il a réussi à moderniser l'image de son parti, l'EVP. Modernisation express, l'an dernier l'EVP était éliminé au premier tour de la présidentielle. Une débâcle que Sébastien Kurz a su faire oublier, son portrait signé Isor Ias.
Celui que les Autrichiens surnomment le Wunderkind, comprenez l'enfant prodige, vit toujours dans le 12e arrondissement de Vienne, là où il est né il y a 31 ans. Gerhard est un habitant du quartier.
Je crois que c'est le meilleur candidat pour l'Autriche, parce qu'il est jeune, plein d'énergie. D'un côté, il a des idées progressistes et de l'autre, il garde des valeurs conservatrices.
Son expérience politique commence très tôt. À 24 ans, il devient secrétaire d'État. À 27, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Et en quelques mois, il prend le contrôle de son parti, l'EVP, en s'appuyant sur la très puissante branche jeunesse, comme l'explique Agnès-Thérèse Salomon, une jeune candidate conservatrice.
Ça a joué un grand rôle dans sa réussite, car il a beaucoup de soutien des jeunes. Mais ce succès, c'est aussi grâce à son travail constant depuis plusieurs années à des postes importants.
C'est en effet lorsqu'il est ministre qu'il fait parler de lui. Il est par exemple l'un des premiers à avoir exigé la fermeture de la route des Balkans pour les migrants. Une position conservatrice qui n'est pas le fruit du hasard, selon le politologue Oliver Gruber.
Il sait ce qu'il doit faire pour prendre des voix à l'extrême droite. Il reprend leur position, mais avec un ton plus acceptable pour les électeurs de la droite traditionnelle.
S'il gagne dimanche, il est probable que Sébastien Kurz choisisse de gouverner avec l'extrême droite.
Faire des kilomètres pour trouver un médecin, attendre des mois pour un rendez-vous, ces déserts médicaux empoisonnent la vie de millions de Français. Paradoxe d'ailleurs dans notre pays, il n'y a jamais eu autant de médecins, environ 216 000, mais les déserts médicaux s'étendent, notamment dans le centre du pays. Le gouvernement présente aujourd'hui en Haute-Vienne une série de mesures pour tenter d'y mettre fin. Développement notamment de la télémédecine, doublement également du nombre de maisons de santé, ces cabinets où il y a à la fois des médecins et des paramédicaux. Patrick Bouet préside le Conseil national de l'Ordre des médecins. Inutile, dit-il à Stanislas Vazak, d'augmenter le nombre de médecins en France.
La solution n'est pas quantitative, elle est qualitative. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut que les jeunes étudiants soient formés dans les territoires où ils font leurs études de médecine, qu'ils soient dans un contact très précoce avec le métier qu'ils vont faire. Donc qu'ils aient des stages dans leur environnement universitaire et que c'est la seule façon aujourd'hui que nous avons de les fixer dans les territoires où ils étudient et donc de pouvoir les voir s'installer dans ces territoires. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que ces jeunes professionnels, on leur offre aujourd'hui les coopérations, on leur offre aujourd'hui le travail en équipe, on leur offre aujourd'hui le moyen d'être des acteurs référents du parcours santé de leurs patients, et que ça, c'est un très gros travail qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Et nous attendons donc que le gouvernement qui est en charge des affaires de santé depuis quelques mois oriente la réflexion sur ces mesures et non pas simplement sur du saupoudrage financier ou sur une affirmation « formons plus de médecins » parce que globalement, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans et ça n'a rien résolu.
Autre chantier actuel du gouvernement, les réformes de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Début des discussions hier à l'Élysée avec les syndicats, assez méfiants pour le moment. Parmi les pistes évoquées dès la campagne présidentielle par Emmanuel Macron, il y a l'élargissement de l'assurance chômage aux démissionnaires, mais aussi aux indépendants. Une promesse qui fait grincer des dents à l'UNEDIC, car elle devrait coûter bien plus cher que prévu, Anne-Laure Chouin.
Personne n'est vraiment capable à ce stade de chiffrer le surcoût exact d'une assurance chômage étendue aux indépendants et aux démissionnaires. Mais une chose est sûre, cela devrait se chiffrer en milliards, des milliards qui viendront alourdir le déficit de l'assurance chômage, ou alors les assurés bien plus nombreux devront se résoudre à voir leurs indemnisations drastiquement diminuées. On rappelle que les démissionnaires se chiffraient en 2016 à près d'un million et que les travailleurs indépendants, eux, sont près de 3 millions. Un afflux soudain qu'il faudra gérer au moment où sont supprimées une partie des cotisations salariales qui finançaient jusqu'à présent l'assurance chômage. Certes, elles seront remplacées par une hausse de la CSG et l'instauration d'un bonus-malus sur les entreprises qui préfèrent les contrats courts, mais cela suffira-t-il? Sans doute pas, prévoit Bercy, qui planche déjà sur une façon d'encadrer les démissions donnant droit à indemnisation. On sait par exemple que les démissionnaires sont le plus souvent des cadres, qualifiés, plus ou moins assurés de retrouver un emploi, et qui pourrait voir dans cette réforme un effet d'aubaine. Et puis il y a l'autre sujet, celui des indépendants, qui ne sont pas forcément favorables à l'indemnisation chômage, surtout si cela signifie qu'il faut créer aussi pour eux une cotisation qu'ils ne payaient pas jusque-là. Au total, la facture estimée par le libéral Institut Montaigne se chiffrerait à 4,8 milliards d'euros, bien loin du 1,5 milliard avancé par Emmanuel Macron pendant sa campagne.
Merci Anne-Laure Chouin. Cette information de la cellule Investigation de Radio France. À présent, l'association Sherpa demande l'audition par la justice de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dans l'affaire Lafarge en Syrie. Le cimentier, qui a fait le choix de rester sur place pendant la guerre civile, est soupçonné d'avoir versé des pots de vin à des groupes armés, notamment au groupe État islamique. Laurent Fabius était-il au courant ? Possible, selon les témoignages d'anciens responsables de Lafarge. Comme tous les vendredis, dans cette édition, présentation à présent du magazine de la rédaction de France Culture. Il est consacré ce matin au don d'organes. Journée mondiale annoncée mardi prochain. La veille, lundi, l'Agence de la biomédecine lancera une campagne nationale en France de sensibilisation à la greffe rénale. Dans le pays, 57 000 personnes vivent grâce à une greffe. Voilà pour le contexte. Mais sachez-le, au niveau mondial, c'est l'Espagne qui détient depuis 25 ans maintenant le record de donneurs par million d'habitants. Je me tourne vers vous, Sarah Maquet, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendue à Madrid et à Barcelone pour réaliser ce magazine de la rédaction et vous avez cherché à comprendre le secret de ce qu'on appelle le modèle espagnol.
Oui, en Espagne, il faut le savoir, seuls 15% des proches d'une personne décédée refusent de donner les organes du défunt. En France, plus de 30% des familles refusent. Pourtant, les deux pays ont le même principe. Principe du tous donneur. Sans opposition exprimée de votre vivant, vous êtes automatiquement considéré comme donneur à l'heure de votre mort. Un principe acté en France par une loi en 1976, une loi renforcée en janvier dernier. Alors quel est le secret de l'Espagne? Certainement un maillage territorial très resserré autour de la figure du coordonnateur de greffe. Ainsi, dans chaque hôpital, une équipe est chargée de repérer les donneurs potentiels et de parler aux familles. Une organisation mise en scène notamment par Pedro Almodovar dans son film « Tout sur ma mère ». Le modèle espagnol inspire tout en atteignant une certaine limite. Il n'y a entre guillemets que 44 donneurs pour 1 million d'Espagnols décédés. En France, on compte 29 donneurs d'organes par million d'habitants. Conséquence, en Europe, 90 000 personnes attendent aujourd'hui une transplantation, alors qu'il n'y a que 10 500 dons par an. D'où la promotion du donneur vivant ou encore du prélèvement sur des patients après un arrêt cardiaque et non plus seulement après une mort cérébrale. Objectif, éviter coûte que, comme en 2015, plus de 500 patients ne meurent en France alors qu'ils sont inscrits en liste d'attente pour obtenir une greffe.
Don d'organes, l'Espagne au cœur de l'Europe, c'est le titre du magazine de la rédaction. Reportage en longueur à partir de 17h que vous avez réalisé, Sarah Maquet, avec Annie et Bro. Il sera suivi d'un débat jusqu'à 18h animé par Aurélie Kiefer. La tendance est plutôt aux éclaircies ce vendredi. Le soleil devrait dominer. Les nuages ce matin sur le nord se feront vite oublier, sachez-le. Les températures largement supérieures aux moyennes saisonnières. 14 à Strasbourg ce matin, 16 à Nantes et Lyon, 20 degrés à Pau et à Nice. Cet après-midi, comptez 20 à 28 degrés sur le sud-ouest. Profitez-en, ça pourrait durer ce week-end.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.